Bonjour et bienvenue dans les Masques tombent. Nous accueillerons tous les jours des acteurs de la culture et les milieux associatifs nancéens et métropolitains. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale. Avec toute l'équipe de RCN, nous avons eu l'occasion de faire la rencontre de plusieurs artisans et artistes de la région grâce à Lumière en Art, le magazine culture web du moment.
Les masques tombent sur RCN, Clarisse Chéri.
Nous allons commencer par une jeune metteur en scène, Laureline.
Mon parcours, je suis originaire d'Épinal. Ouais, je suis née à Épinal, j'ai fait ma scolarité là-bas. Je suis venue à Nancy aussi faire 2 ans d'études à l'université de lettres. Et en fait, c'est là où j'ai démarré en tant qu'artiste. J'ai commencé d'abord par la danse. Mon premier contrat donc, était un contrat de danseuse. Et rapidement, j'ai eu envie de me tourner vers le pluridisciplinaire. Donc j'ai fait une formation à Paris de théâtre chant danse à l'Académie internationale de comédie musicale. Et à peine sortie de l'école, j'étais employée sur des contrats. J'ai commencé par le violon sur le toit, donc je suis partie en tournée dans des opéras. Enfin, voilà, j'ai pas mal vadrouillé, on va dire. J'ai eu plusieurs contrats à Paris et je me suis formée au théâtre à l'école Claude Mathieu, qui est spécialisée art et technique de l'acteur à Paris. Une formation que j'ai faite pendant 3 ans. Et donc en parallèle, j'ai été artiste-interprète sur scène pendant près de 20 ans. Je le suis encore. Mais maintenant, on va dire que je suis plus derrière. Donc plus à la mise en scène, plus à la conception des projets. Puis j'ai comme ça évolué énormément au plateau pour d'autres compagnies et j'étais très heureuse de le faire. Puis à un moment donné, j'avais envie aussi moi de parler d'histoires qui me touchent et de projets voilà, qui me tiennent à cœur, de constituer des équipes, de fédérer des cerveaux créatifs voilà, avec moi sur des projets. Et donc, grosse remise en question, après 10 ans de carrière, je suis partie en sac à dos faire Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, je suis partie comme ça, près de 2000 km à pied. Voilà, je l'ai fait en 3 étapes. Et puis, c'est sur le chemin que j'ai eu l'idée de monter une compagnie. Et de là est né le nom Ultreia, en fait, qui veut dire bonjour et bon voyage vers l'avant. C'était une appellation en fait, qu'on me disait sur le chemin de Saint-Jacques, Ultreia, pour me souhaiter bon voyage vers l'avant. Et je me dis, mais en fait, je rêve de fonder une compagnie qui soit à cette image-là, où tout d'un coup, il y ait des chemins transversaux qui se rencontrent, des croisements, des conjugaisons de savoir, de talents, d'histoire qui se rencontrent sur ce chemin. Et donc, du coup, cette compagnie est à l'image de ça. C'est une compagnie à géométrie variable. Il y a des fidélités forte, que ce soit au niveau de la scénographie, son, lumière, tous les créateurs, on va dire, techniques sur les spectacles, maintenant, voilà, sont là depuis un petit moment. Et puis après, en fonction des projets, donc ça va être des comédiens, des danseurs, des artistes, des musiciens ou chanteurs, voilà, qui vont se greffer à chaque projet. Et donc, dernièrement, j'ai créé un spectacle qui s'appelle 187.75 Hertz, qui est la première pièce que j'ai écrite et qui traite de la voix. Simplement parce que dans mon parcours, la voix a une importance capitale. Déjà, c'est un moyen d'expression, c'est un instrument vivant qui est comme une bande passante, un peu de tous nos états émotionnels, qui est presque aussi à l'image de ce qu'on est, la façon dont on s'exprime. Et ça porte énormément de choses, à la fois dans la sonorité, dans la façon de s'exprimer, dans les mots, dans aussi ce qui est dit, ce qui n'est pas dit. Là, les auditeurs qui m'écoutent aussi vont peut-être se faire une image de moi, de ma vie, de mon parcours, rien qu'au son de ma voix. Et cette communication-là, ce lien invisible, je trouvais ça très fort d'en faire un spectacle. Donc j'ai écrit une pièce en 16 fréquences, puisque 187.75 Hz, en fait, pour la petite anecdote, c'est la fréquence de ma voix, un son de ma voix. À un moment donné où j'étais à Faune, j'ai été voir un phoniatre, donc privé de mon instrument de travail au final, privé de ma voix. J'ai été faire un examen chez un phoniatre, il m'a demandé de faire un son, et le son que j'ai pu produire, c'était un son assez grave, parce que j'avais plus du tout d'aigu, plus du tout de son, et donc c'était la fréquence que j'ai vue sur le graphique. Je me suis dit, c'est drôle de voir ma voix, moi qui chante, qui m'exprime en tant que comédienne, tout d'un coup c'est un graphique mesurable, quantifiable, avec une impression sur un papier, quoi. Et je me suis dit, tiens, c'est drôle d'imaginer la voix sous forme de fréquence. Et en fonction des étapes de vie, tiens, si on utilisait cette métaphore de la fréquence comme le rapport à soi, le rapport à l'autre, le rapport au monde, et de voir quelle fréquence ou qu'est-ce qu'est notre voix quand on est bébé. bébé, on capte tous les sons sans même y mettre du sens derrière. En tant qu'adulte, en tant qu'adolescent quand on est révolté, quand on transmet peut-être à un âge un peu plus avancé, toute la question de la transmission, de l'éducation, de l'émancipation, de cette parole aussi peut-être à un âge plus avancé, et peut-être même à l'âge, on va dire quand on se rapproche aussi peut-être de la mort. Quelle a été notre voix au final? Quelle est la trace qu'on laisse à travers nos voix? Et donc, voilà, j'ai écrit comme ça un spectacle et j'ai été collégiée des voix, collectée des voix du territoire. Et parce que c'est une installation, oui, le dispositif scénique est assez particulier. C'est un dispositif circulaire où le public se retrouve sur scène avec nous. C'est une jauge limitée à 81 places et il y a 15 points de diffusion autour des spectateurs. Donc par rapport au projet Portrait de voix, il va y avoir 12 portraits, 12 voix très différentes. On a essayé de allier on va dire, plusieurs cultures, plusieurs âges, des générations différentes, des horizons, des origines différentes, même des métiers différents, pour avoir comme ça un rapport à la voix qui soit différent aussi en fonction des profils. Donc on a été dans des centres sociaux du quartier d'Épinal, des personnes, une personne qui était par exemple SDF, des personnes oui, qui avaient monté des associations, des personnes qui sont professeurs, un jeune ado, une jeune femme qui débarque dans la vie professionnelle. Enfin voilà, d'avoir aussi différents rapports à la voix, puisque les portraits de voix aussi, c'est chacun qui se raconte dans son rapport à sa propre voix. Donc je trouvais ça intéressant de, on va dire, d'avoir 12 points de vue différents par rapport à la voix, par rapport aux origines et au parcours de chacun. La lumière aussi est circulaire et immersive, donc comme ça le spectateur est baigné dans cette ambiance à la fois de texte, de son, de lumière, de vidéo aussi, parce que je travaille aussi avec de la vidéo. Et ces voix qu'on a collectées, on les a aussi insérées dans le spectacle. Parce que pour moi, c'est pas seulement la voix de la comédienne, c'est pas seulement la voix du texte, c'est aussi toutes les voix qui nous traversent, qui nous entourent, qui nous parlent. Et ces voix étaient tellement riches, les parcours de vie, les intimités que les gens nous ont livrées étaient tellement profonds que j'ai eu envie d'en faire une installation sonore qui s'appelle Portrait de voix. Et donc c'est une diffusion sous casque. Dans l'espace public, alors ça peut être des médiathèques, des centres culturels, des théâtres, donc c'est des portraits, des cadres, sauf qu'il n'y a pas d'image, il y a des casques. Et donc on entend des voix qu'on ne connaît pas, et donc avec les sonorités, les mots, les parcours de vie, on va rentrer comme ça dans l'histoire de voix. Voilà un peu, en tout cas pour les dernières créations voilà, de la... Donc là, les portraits de voix vont être diffusés. Donc on a fait plusieurs éditions. À chaque fois, on va dans des villes, on collecte des voix du territoire en fonction des villes. Et donc là, la prochaine édition se passe à Épinal. Et donc là, on est en train de faire les montages, la préparation de l'installation. Et ce sera diffusé à la BMI d'Épinal du 18 octobre au 13 novembre prochain.
Nous restons sur RCN en écoutant Kat de Roseau.
By the way, when you and me alone are, so leon neng el kong leon lol ning kong pineng el bai when we chill let me till now we let me solve away when mengues di uye when the end me lol ay when the end me mengues when the end me lol
Masque tombe sur RCN.
Merci de nous écouter sur RCN pour l'événement de Lumière en Art. Nous avons eu l'occasion de rencontrer Luca.
Alors voilà, je m'appelle Luca, je débute mon parcours en tant qu'artiste, artiste en herbe. Je n'ai pas spécialement fait d'école, je le précise puisque c'est une question qu'on me pose assez souvent quand même, donc totalement en autodidacte avec tout de même quelques membres de ma famille qui sont artistes, mais on n'est pas là pour parler d'eux apparemment. Voilà, donc principalement de l'art plastique, beaucoup d'aquarelles, beaucoup d'acrylique, mais à vrai dire, je ne me concentre pas spécialement sur des techniques en particulier. Voilà, j'essaye de donner vie et forme à des émotions, des choses qui me traversent, et lorsque j'ai une idée, j'essaye d'aller de la manière la plus simple possible, la plus directe possible, pour donner vie le plus vite possible à ce qui est en train de me traverser. Bon, après, à vrai dire, j'ai pas vraiment l'impression, enfin, j'ai la sensation de pas vraiment avoir de contrôle là-dessus. C'est-à-dire que j'ai plus l'impression d'être les petites mains de quelque chose qui me dépasse un petit peu. Mais du coup, voilà, j'apprends petit à petit à couper la tête, enfin, pas à couper, mais à éteindre la tête, du moins, et à faire avec le cœur, parce que c'est quand même beaucoup plus fluide quand ça se passe comme ça. Voilà. Donc, et puis, je me limite pas uniquement à la peinture, j'aime aller au gré de mes envies. En fait, je laisse libre cours à mon enfant intérieur. S'il a envie de faire de la sculpture, je le laisse faire de la sculpture. S'il a envie de faire de la peinture, je le laisse faire de la peinture. S'il a envie de faire les deux, eh bien, faisons les deux. Donc actuellement, j'ai ma troisième exposition qui a lieu en ce moment donc à Court-Circuit, au 47 rue Voltaire à Laxou. Nous allons donner un vernissage demain. Voilà, l'exposition est visible jusqu'au 29 octobre. Donc voilà, principalement de la peinture et de la sculpture. J'essaie de faire des objets d'art, pas uniquement mettre les peintures sous cadre. Voilà, j'essaie de faire des objets de poésie. Voilà.
On la retrouve bientôt à Berlin.
Berlin, c'est un grand sujet. Effectivement, j'ai eu la chance d'y faire un petit séjour récemment. Séjour qui a eu l'effet d'une bombe dans ma tête et dans ma vie, qui a ouvert beaucoup d'horizons. C'est vrai que c'est une ville qui m'a séduite de par sa conscience artistique. L'appropriation urbaine est quand même beaucoup plus envisageable là-bas. Bon, une conscience écologique, mais ça, c'est autre chose. Donc ce petit séjour m'a ouvert pas mal d'horizons. Contrairement à Nancy, qui me donne un petit peu le vertige, je dois avouer, en tant que jeune artiste, qui en plus n'a pas fait d'école. Donc c'est vrai que la liberté que pourrait offrir Berlin est plutôt attrayante. Donc c'est en ce moment un petit leitmotiv, donc je commence à me faire quelques contacts. Si jamais vous avez besoin d'une artiste française à Berlin, n'hésitez pas. Mais voilà, ouais, c'est un objectif, une prochaine étape, on verra où elle me mènera, mais en tout cas ça élargit mes horizons et ça fait du bien. Parce que c'est vrai que comment dire, quand en plus de ça, on sort de nulle part, on fabrique tout chez soi, c'est vrai que ça peut vite être assez vertigineux et ce voyage m'a fait du bien. Voilà.
Les masques tombent sur RCN.
Je suis Vano de l'écrin du temps et ma thématique c'est le temps suspendu. Donc je travaille à partir d'anciens mouvements de montres, de réveils, de comptoises suisses et franc-comtois que je transforme, donc auxquels je donne une seconde vie. Et alors j'ai deux activités sur la thématique du temps suspendu. Donc la partie bijoux, où là c'est vraiment plutôt des mouvements de montres, et puis la partie sculpture, la partie tableau, la partie sculpture lumineuse, où là je vais utiliser soit de toute petite pièce, soit de la pièce plus importante. Donc, et là je mêle le bois, donc le temps végétal et le temps mécanique. Voilà un peu un résumé de mon univers. Et donc je travaille à partir de pièces du début du 19e jusqu'aux années 1940-1950. Donc de la vieille pièce qui a eu une belle vie de montre et que je transforme afin de lui donner une seconde vie. Avec mon épouse, on a acquis un ancien hôtel particulier 18e que j'ai rénové. Donc le travail du bois m'a confirmé que cette matière me plaisait beaucoup à travailler, avec toute sa sensualité, toute sa... Voilà. Et donc du coup j'ai commencé à travailler le bois. Et un jour, encore une fois à travers des rencontres avec mon frère qui lui travaillait dans le monde de la fantasy, j'ai voulu travailler sur le thème du temps et le temps mécanique. Et de là, j'ai mêlé donc le bois au mécanisme. Ensuite, des rencontres avec la conservatrice du musée du temps de Besançon qui m'a emmené à rencontrer des horlogers, à aller travailler en Suisse. Et voilà. Donc de rencontre en rencontre, j'en suis arrivé à cette... Actuellement, là, je reviens du Luxembourg. Il y avait une thématique sur les années 1900. Et sinon, à partir du 22 novembre à l'Axou, une exposition un peu plus importante, que je suis en cours de préparation là, avec la municipalité. On se retrouvera là.
Merci d'être sur SCN dans les masques tombent. Nous avons écouté Childish Gambino, Redbone.
Les masques tombent sur RCN.
Merci de nous écouter sur RCN. Nous allons écouter l'interview du directeur et pâtissier des Sœurs Macaron.
Écoutez, moi je suis issu d'une famille de boulangers-pâtissiers, des Vosges. Hein, et en arrivant en 70 avec mes parents rue Saint-Dizier, bah parce que mon père voulait un peu sortir un peu de la boulangerie, et donc il est venu s'installer pour faire de la pâtisserie et a repris une maison rue Saint-Dizier, au 129 de la rue Saint-Dizier. Et donc voilà, pour s'installer. Et puis cette aventure-là, ça a duré 20 ans. Voilà, et en 1991, donc je parle toujours de mon père, il a eu l'opportunité de racheter donc la fameuse maison des Sœurs Macaron avec son secret de fabrication de cette recette. Et puis voilà, donc il a exercé pendant 10 ans. Et puis en 2000, j'ai repris l'affaire. Ça fait 22 ans que j'ai repris l'affaire avec mon épouse, après avoir pas forcément eu une carrière de pâtissier classique. Parce que moi, j'ai fait des études commerciales, j'ai fait une école de commerce et j'ai fait 11 ans dans l'industrie laitière chez Danone France. Voilà. Mais ça nous a beaucoup apporté en termes d'organisation, hein, parce qu'on sait... Ça nous a beaucoup apporté sur les points faibles, entre guillemets, de l'artisanat. C'est l'organisation, la gestion. Donc tout ça, ça nous a... Voilà, une expérience en multinationale, ça nous a renforcé nos connaissances là-dessus. Et puis j'ai décidé, effectivement, à 36 ans, en 2000, de reprendre la suite de mes parents. Parce que j'avais un formateur, par excellence, qui était mon père, donc... Et donc il m'a mis le pied à l'étrier, et puis 22 ans après, on est toujours là, avec une philosophie qui effectivement là en l'occurrence au niveau de la fabrication n'est pas celle des industriels, mais bien celle de l'artisanat, c'est-à-dire gérer l'exigence, la qualité des matières premières, l'accueil, hein, parce que tout ça c'est primordial aujourd'hui, et puis on a essayé depuis 22 ans de continuer à mettre en valeur, à montrer ces valeurs-là au jour le jour, et puis à mettre en avant cette recette de produits qui fait partie du patrimoine de Nancy, hein, le macaron, et à travers ces produits naturels, qui est surtout le cœur du macaron, c'est l'amande. Donc voilà. L'amande de Provence en l'occurrence, l'amande française, ça j'insiste là-dessus. Et on vient même de renforcer effectivement cette proximité avec l'amande, parce que vous voyez, pour garantir notre production, on vient d'investir dans des hectares d'amandiers pour essayer de garantir un peu, et ça c'est important. Donc on attend notre première récolte, vous voyez, on a planté il y a 3 ans, donc il faut encore patienter 2 ou 3 ans, parce qu'un amandier, il faut attendre 2 ou 3 ans pour que ça donne, donc on va attendre patiemment ces 2 ou 3 années qui restent. Voilà, donc ce qu'on essaye d'apporter, développer au jour le jour, voilà, avec des valeurs fidèles, respecter les valeurs fidèles à l'artisanat. Voilà, il y a du sens derrière ces produits-là. La bergamote, le macaron, la mirabelle, le magasin tourne autour de ces 3 produits-là. Donc ça fait partie intégrante du patrimoine lorrain. Donc voilà, on défend notre région. Voilà. Donc c'est ça. Donc ça on ne s'en lasse pas. Voilà. On défend des produits qui ont une vraie histoire. Donc voilà. Donc ça, après, il faut transmettre aussi cette passion aussi du patrimoine. Et voilà. Donc c'est un peu ce qui nous habite.
Pour cet événement, nous avons été chaleureusement accueillis par la comtesse du Barry, Diane Antoine.
Alors, donc je suis Diane Antoine, donc propriétaire de la boutique Comtesse du Barry qui a ouvert ses portes rue des Dominicains il y a 4 ans à Nancy. Je viens de Strasbourg à la base, j'ai fait l'école hôtelière pendant 5 ans, j'ai travaillé dans le monde de l'hôtellerie-restauration plusieurs années. Et quand je suis arrivée à Nancy pour des raisons personnelles, je suis sortie de l'hôtellerie-restauration et j'ai travaillé plus de 20 ans dans la publicité. Et du coup, j'avais envie, quand mes enfants étaient plus grands, de refaire quelque chose lié à ma passion, donc tout ce qui est gastronomie, et de travailler à mon compte. Et voilà, j'ai trouvé la franchise Comtesse du Barry et j'ai ouvert le 7 septembre. il y a 4 ans, 2018. Après, j'ai ouvert un deuxième établissement au mois de mai, toujours à Nancy, toujours dans l'alimentaire, parce que bah, vous avez compris, c'est ce que j'aime. Voilà, et j'ai ouvert un restaurant qui s'appelle Poké Bar, rue des Ponts, où vous étiez présente, je crois, voilà, qui a ouvert fin mai, où on fait de la cuisine saine, équilibrée, en produits ultra frais. Et chez Comtesse du Barry, bah, on va retrouver tous les produits Comtesse du Barry, donc produits du sud-ouest, faits à partir de nos propres élevages, sans additifs, sans conservateurs. Et j'ai également sélectionné des producteurs du coin, pour mettre en valeur quand même la petite pâte lorraine. Donc j'ai des produits en général qu'on ne trouve pas trop ailleurs. Ça équilibre bien les choses. Bah, on a tous les produits emblématiques de la gastronomie française, on a le foie gras. Donc cette année, ça va être très compliqué d'en avoir, puisqu'on a eu 3 grippes aviaires. Par contre, moi, je peux garantir le stock, puisqu'il nous les est réservés en priorité. Donc, c'est vrai qu'on le trouvera bien chez moi à Noël. Voilà, ça, c'est bon à savoir pour les auditeurs. Et le saumon, le caviar, la truffe, tout ça sur commande. Et on développe également une gamme traiteur pour les fêtes, avec le foie gras cru, des rôtis de canard, plusieurs choses à commander à l'avance.
13h, 13h30. Les masques tombent sur RCN.
C'était un plaisir de participer à l'événement Lumière en Art, le magazine web du moment. Vous pouvez les retrouver sur leur site lumièreenart.fr. À l'occasion de notre nouvelle rencontre sur Les masques tombent.
Et je souffle sur mes bougies, au feu d'artifice des mortiers. Un radeau pour se loger, les rêves au pinceau Crusoé. J'en ai affronté des bourrasques, fermé les volets sur le monde. Résister au vent, à l'orage, en voyant flotter des jocondes. Et le chant des sirènes s'étouffe sous le bruit des pléiels. J'ai serré fort mes chimères avant qu'elles ne se réveillent. Avant qu'elles ne se réveillent. Avant qu'elles ne se réveillent.
Il faut faire du foyer le temple de la famille.
Dans mon paquebot de béton, j'ai traversé la mer Baltique, écloué sur le ponton, un père au regard bateau ivre. Les femmes sous leur voile ont l'espoir Pénélope, des kilomètres de toile, descendre sans leur clope. Et je dessine le contour de plafonds haussmanniens, de Vespéra l'amour, aux enlacements bleu clin. Et je m'invente des ascenseurs fluides.